Bras Zéro, Brassage Radio. Bonsoir, bienvenue à l'émission Bras Zéro Love. Alors, pour tout vous dire, on était parti à la base pour faire une émission légère sur l'amour. Mais on s'est dit qu'on était trop engagé vis-à-vis de vous et que notre relation radiophonique valait beaucoup mieux que ça.
Pour garder la flamme entre vous et nous, on est parti creuser la question et continuer à vous surprendre, même après 5 ans de relation.
Joyeux anniversaire.
Vêtus de nos plus beaux micros, on est allé interviewer des jeunes de Perpignan qui se trouvaient là pour un futur Bras Zéro, une amie pleine de sagesse au téléphone et une jeune dans un café avec sa chronique inattendue.
Aussi entourée de nos expertes les plus avisées, ce soir on va répondre aux appels d'auditrices anonymes et non pas l'équipe de Bras Zéro, qui se posent des questions essentielles.
Par ailleurs, soucieuses et soucieux de la cohérence scientifique de nos propos, nous relayerons des extraits d'une brochure qui se nomme « Contre l'amour ». À travers une petite pièce qui parle du cœur et du ventre, et à travers une lettre d'amour. Et aussi, une autre de nos trouvailles, le fameux lexique officiel des interactions amoureuses.
Et enfin, rien que pour vous, en avant-première, la chronique « Confession d'un humain », intime et percutante. Et n'oubliez pas, notre plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Voilà, donc moi j'appelle.
En fait, j'avais une question.
Oui, salut. Moi j'ai une question.
Allô ?
J'ai une question !
SOS Love.
SOS Love. Bonsoir, bienvenue à la toute première de la chronique SOS Love. Moi c'est Irma, vous m'avez plusieurs fois entendue sur Bras Zéro, je fais l'astrologie, le tarot, des chroniques de temps en temps et j'ai une invitée spéciale, une spécialiste, mon amie Michelle.
Michelle, experte en amour depuis 1998.
Voilà, donc nous sommes là, nous attendons vos appels. Pas de jugement, de la bienveillance, des questions d'amour, de cul, de tout ce que vous voulez. On vous attend.
Alors d'abord, merci pour ouvrir cet espace. On n'a pas l'habitude d'entendre ça sur nos radios. Et la question que je me pose, que je vous pose, je me demande, est-ce qu'on peut être amoureux, amoureuse plusieurs fois? Quand on a eu un grand amour et puis un deuxième grand amour, un troisième peut-être, est-ce que vraiment on peut encore en avoir d'autres? Est-ce que c'est pas sans cesse une répétition? Est-ce qu'à un moment ça s'arrête comme un distributeur de bonbons? Je sais pas, est-ce qu'à un moment c'est vide ou... Voilà, je sais pas. Je me demande, je me pose la question.
Merci pour cette question. Est-ce qu'on peut tomber amoureux plusieurs fois? Est-ce que le robinet se coupe?
Ah, ça se coupe. Hein. 3 fois, normalement, c'est le maximum. En tout cas, dans ma carrière, j'ai jamais vu plus.
Donc voilà, Michel a un avis bien tranché. Peut-être que moi, je mettrais un petit peu plus d'eau dans mon vin, hein, comme on dit. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux dans sa vie. On peut tomber qu'une seule fois amoureux dans sa vie. Déjà, on peut peut-être le dire autrement, on peut dire que déjà t'as de la chance d'avoir eu 3 grandes histoires d'amour dans ta vie. Moi je crois pas que l'amour il s'arrête, mais je crois qu'il évolue avec nous, que notre manière de tomber amoureux, amoureuse, il va dépendre de plein de choses, il va dépendre de nos âges, il va dépendre de nos envies, de nos espaces, de notre place, de notre capacité à prendre des risques ou pas, il va dépendre de tout ça. Mais voilà, je crois pas que ça s'arrête. Je crois que peut-être à 18 ans, notre manière de tomber amoureux, c'est pas la même qu'à 40 ou 50 ans. Peut-être que c'est des moments où aussi on sait un peu plus ce qu'on a envie, on a un peu plus expérimenté qui on est et c'est quoi nos limites, nos envies, tout ça dans l'amour. Voilà, donc j'ai l'impression aussi, peut-être à des moments, c'est un choix de continuer à tomber amoureux.
Bon, un choix, je sais pas, parce que, pour être honnête, soyons honnêtes, C'est vrai qu'il y a un âge où les rencontres se raréfient un petit peu. Les gens s'installent à la campagne, beaucoup ont des enfants, des couples, et on a de moins en moins de possibilités de tomber amoureux. Les gens disparaissent tout de même. Et on se retrouve souvent, même si on a envie de sortir, de rencontrer des gens, à rencontrer des gens qui sont beaucoup plus jeunes que nous, ça ne nous le fait pas. Donc on peut quand même dire qu'il y a quand même moins de possibilités sur le marché du love.
Moins de possibilités sur le marché du love, mais une plus grande connaissance de soi, de ce qu'on a envie, et donc peut-être des rencontres merveilleuses aussi, même si elles sont plus rares. De toute façon, ce qui est rare est précieux. Merci pour votre question.
Un ventre, un cerveau, l'amour, dialogue.
C'était orange. Ça tournait. Après, ça montait dans les poumons. C'était bon. Elle était belle.
Moi, je trouve que elle, avant tout, est très intéressante. Nous avons eu des discussions de grande qualité. Elle a des idées brillantes.
Je la trouve super. Super jolie. Et sympa et tout. Je l'aime trop. Et elle m'a fait comprendre qu'elle aussi, elle m'aime. Tu sais, je suis sûr qu'elle nous aime. Il ne reste plus qu'à se mettre en couple.
En couple? Mais pourquoi faire? La propriété, c'est mal. La propriété affective est une forme hautement puante d'oppression. Tout le monde devrait être libre de tomber amoureux de plusieurs personnes à la fois. Que de
love. Brasero Love. Brasero Love. Vous êtes notre plus grande histoire d'amour.
Brasero, l'émission la plus love de la bande FM.
L'amour, le mort, l'amour, le mou, l'amour, ça mord, l'amour, c'est mou, l'amour, ça meurt, à la miou, sans mots, sans remords, ni...
Petit répertoire des interactions.
Le squitch.
Le squitch.
Le squitch.
Coup de cœur amical. Ben oui, hein, l'intensité, ça existe aussi en amitié.
Le crypto-crush.
Le crypto-crush.
Petite étincelle qui ne manquera pas de vous donner quelques lueurs dans les yeux, mais qui s'estompera vite... À moins qu'il ne devienne un...
Crush.
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 Perturbant niveau 2. Petit feu de désir, de curiosité, de rêve. Le crush, vous y pensez avant de dormir en imaginant les histoires qui pourraient se fabriquer avec cette personne que vous aimez tant croiser. Le coup de cœur.
Le coup de cœur. Perturbant niveau 3. Ah, le voilà le crush confirmé. C'est un brasier qui s'allume en vous, de votre tête à votre cœur, par votre corps. Vous le la connaissez peu, mais vous l'aimez déjà. C'est un peu comme dirait le groupe Aventura.
Non, non es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón.
Au premier regard.
Au premier regard.
Perturbant niveau 5, c'est le coup de foudre. Un coup de cœur dans les 10 premières minutes de la rencontre. Passer ce timing, se référer aux catégories précédentes. Vous le la voyez et vous la le reconnaissez. C'est comme si toute votre vie s'était organisée autour de ce moment précis pour que vous soyez là, au bon endroit et au bon moment.
Est-ce que tout le monde a le même accès à l'amour? Déjà, moi, je pense qu'il y a différents types d'amour. Vraiment, je suis un peu comme ça, quelqu'un qui catégorise. Je trouve que c'est pas le même amour dans les relations amicales ou dans la famille nucléaire où t'as pas forcément choisi où tu tombais, ou dans les espèces de relations de couple là, ou affectivo-sexuelles. Et je trouve que ce soit pour tout ça, en fait, on n'a pas le même accès à l'amour. Par exemple, si on prend... Déjà, c'est quoi l'amour? C'est hyper compliqué, non? C'est hyper compliqué ta question. Si on prend la famille nucléaire, donc t'es tombé dans une famille où t'as pas choisi les gens, après tu peux choisir de les aimer d'une manière ou d'une autre, ou de pas les aimer. Je trouve la transmission de l'amour, eh ben, d'une famille à l'autre, ça change. Donc pour moi, c'est un peu comme de la transmission, une formation en fonction de comment ça a été transmis ou comment toi tu vis les choses, eh ben... C'est pas pareil, par exemple, si t'as été dans une famille où... Moi, j'ai grandi dans une famille où l'amour, on s'en foutait. Je trouve que c'est pas pareil où t'es éduqué et que tout ce qui... Quand t'es éduqué dans une famille où tout passe par ça, eh ben, t'as déjà peut-être des bonnes bases. Après, pour les relations amicales, eh ben, en fonction de comment on arrive à se dire les choses, à vivre les choses, aussi comment on a accès à un réseau, parce que les amis, ça ne nous tombe pas du ciel. D'abord, tu rencontres les gens, après, tu nourris la relation. Et là, les formes d'amour, pour moi, elles sont beaucoup plus intéressantes que dans des relations de couple ou la famille, par exemple, parce que j'ai l'impression que comme on est moins conditionné, elles peuvent avoir plein de formes différentes. Mais je dirais que non, on n'a pas accès, même dans les relations amicales, on n'a pas accès chacune de la même manière à l'amour. Et alors là, pour les relations affectives ou sexuelles et le couple, non, parce que pour moi, c'est un peu on n'a pas accès au même amour, parce que déjà, à la base, c'est un peu un marché de qui est sur le marché de la séduction ou pas, qui on pécho ou pas, est-ce que t'es dans le game ou pas, et que ça, je trouve que c'est peut-être un des aspects de l'amour, entre guillemets, où on n'a pas du tout le même accès, où c'est même plutôt inégalitaire. En tout cas, dans ce truc d'être dans le game ou pas, j'ai l'impression que c'est aussi un truc avec plein de codes, pour moi, qui sont liés à la séduction, au départ, mais qui peut exister même sur du long terme, parce que c'est des choses qui se nourrissent parfois. Et quand j'y ai dans le game, tu vois, pour le départ, en tout cas pour rencontrer des gens avec qui on va faire de l'affectivo-sexuel ou du couple ou du trouple ou ce qu'on veut, bah il y a ton look, ton attitude, est-ce que t'es considéré être comme une personne classe ou pas, est-ce que tu danses bien, en fait il y a plein de choses. Pour moi c'est la question de est-ce que t'es visible ou pas. Et j'ai l'impression que c'est pas très juste, parce qu'on pourrait très bien ne pas être visible, timide et être charmé. Mais que j'ai l'impression que sur ce marché-là, eh ben, c'est pas ces personnes-là qu'on va favoriser ou qu'on va aller chercher. En tout cas, c'est comme un jeu de société avec plein de règles. Et que si on répond pas à toutes les règles, on est un peu en carafe. Et après, moi, par exemple, je cours pas après ce type d'amour-là, parce que je trouve ça vraiment pourri. Après avoir vécu deux, trois expériences moyennement longues, je trouve qu'on règle des problèmes à deux qu'on n'aurait pas à régler quand on est toute seule ou avec des amis.
Est-ce que les codes pour toi, c'est autre chose que aussi les rapports des systèmes de domination? Ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois ce que je veux dire?
Pour moi, ça peut être lié au système de domination, mais c'est aussi autre chose. En fait, j'ai l'impression que, tu vois, il y a cette espèce de formule de « oui, mais le cœur, il choisit pas ». Bon, moi, je suis pas d'accord avec ce truc-là. Que plutôt, quand on est en crush ou en kiff sur quelqu'un, eh ben, on peut décider que ça reste au stade de crush. Ou on peut décider de le nourrir un peu, on peut décider de le nourrir à fond, sur une relation, etc. Donc oui, de prime abord, peut-être qu'on peut se dire, bon, qu'on soit de classes différentes, c'est pas grave, ou qu'on soit pas de la même race, c'est pas grave. Et peut-être ça peut être vrai, ça peut ne pas être grave ou important, mais je trouve qu'à un moment donné, ça vient forcément se frotter. Et que dans ce truc d'accès, c'est que, pour moi, je dis vraiment ça, mais parce que je trouve que c'est du travail. Je dis vraiment ça. En fait, qui a l'énergie de travailler ça et peut travailler ça même dans sa relation affectivo-sexuelle sans que le côté matériel de la vie prenne tout le pas sur la tendresse, l'affection et ce qu'on a envie de partager de chouette. Je dis pas que partager les questions de classe ou les différences de classe ou de race, c'est pas chouette, mais peut-être ça enlève un peu du sexy. C'est craignos ce que je dis là. Mais je le pense. Moi, par exemple, dans mes deux dernières relations de couple où il y a eu des moments chouettes, mais aussi pour la dernière relation, des moments horribles, moi, je suis pas valide physiquement. Et tu vois, là, j'en viens à un stade de « Ah, peut-être, pour être un peu plus tranquille, il faudrait sortir avec... » Parce que je suis noire aussi. Il faudrait que je sorte avec une personne noire qui soit pas valide. Et qui soit à peu près de la même origine sociale que la mienne. Sauf que tu vois, du coup, ça fait un tri un peu drastique. Mais à un moment donné, dans une question de choix, je me dis, pour moi, ça pourrait être intéressant. Et surtout, ça pourrait être reposant. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... Quand il y a un écart sur la question du validisme et que tu es avec quelqu'un d'hyper valide, il y a un écart. Et cet écart, tu vois, quand on le discute, quand machin, moi, je trouve ça fatigant. En fait, ça me vénère à chaque fois. Donc je me dis, bon, peut-être dans mes futures relations, bah, je vais un peu changer de fusil d'épaule. Même si tout ça, c'est difficilement anticipable et tout, mais... Voilà. Je sais. En tout cas, non, on n'a pas le même accès. Et puis, je pense qu'on n'a pas le même accès, par exemple, si on vit en ville ou à la campagne.
Ouais.
Moi, je me pose vachement cette question de c'est quoi être une gouine à la campagne, par exemple. Mais comme une gouine en ville, tu vois, c'est pas non plus l'évidence. Enfin, tu vois, moi, j'habite dans une grande ville à Marseille. Bah, je trouve que en dehors d'un certain milieu, c'est pas non plus facile. Quant au mode de vie, c'est pas de faire la fête tous les soirs et d'aller dans les bars lesbiens, et ben... Mais je me pose quand même la question de l'accès à ce niveau-là. Aussi, entre quelqu'un qui est sociable et quelqu'un qui ne l'est pas. Enfin, ouais, il y a plein de... Ça soulève plein d'autres questions. Mais l'amour, quoi. Hein ?
C'est une question qui te parle,
toi. Ouais, moi, ça me parle. Après, je passe pas ma vie à y réfléchir, mais j'ai l'impression que ça fait un peu des petits filtres. Et peut-être c'est pour ça que j'ai décidé, en tout cas sur les relations affectivo-sexuelles, de lever le pied depuis 2 ans et demi. Bon, déjà, il y a eu le Covid. C'est pas comme si on avait rencontré 10 000 personnes par an ces 2 dernières années, en tout cas pour moi. Et puis en plus, j'ai la flemme. Oh là là. Mais ça me parle grave et je trouve ça intéressant de se poser la question. Peut-être on ferait un peu moins de merde dans nos relations si on se posait un peu plus de questions. Mais je pense que l'accès à l'amour, c'est peut-être un peu plus facile pour les hétéros. Bah, parce que la norme, elle est pensée à partir d'eux.
Ouais.
Du coup, ils se prennent peut-être moins la tête. Ils se prennent moins la tête, quoi. Je sais pas. C'est une bonne question.
Ouais, mais peut-être moins de qualité, des fois.
Ah, bah, ça, c'est sûr. Et que leur vie, on n'en veut pas. Franchement, non, merci. On n'en veut plus. Bon, voilà, tu garderas ce que tu veux. En tout cas, moi, j'aimerais dire peut-être dans votre émission que on peut ne pas être en couple et c'est vraiment pas grave. Le célibat, c'est aussi chambé. Voilà, le petit coup de pub pour les célibataires.
Brasero, amor.
Un plateau avec des jeunes qui étaient complètement venus pour autre chose. Mais au milieu de nos discussions sur leur engagement associatif, on a parlé d'amour.
Est-ce que c'est facile l'amour aujourd'hui quand on est jeune, après la pandémie voilà, comment vous vivez tous ces trucs-là? Je coupe mon micro et ça... Donc a priori, à votre âge, c'est difficile de parler d'amour.
C'est pas difficile, c'est compliqué.
L'amour, c'est faible, parce que quand on est amoureux, on est très sensible.
Je peux me permettre des différences, définitions du mot amour. Il y a l'amour, par exemple, pour la mère, et l'amour qu'on peut rencontrer pour une fille. Et à refaire aussi la distinction du mot amour et le mot désir, parce que c'est pas... C'est pas pareil.
Non, les intentions des gens, elles sont difficiles à savoir. C'est la génération qui a changé, qui pense connaître l'amour alors qu'ils la connaissent pas. Ils connaissent pas vraiment c'est quoi.
L'amour, c'est faible.
Parce qu'il y en a, ils se tombent amoureux alors qu'ils ont jamais vu la personne. Moi, je trouve ça chaud un peu.
Ouais, c'est vrai que notre époque, elle a changé. Parce que moi, à l'époque de mes parents, mon père, il envoyait une lettre à ma mère.
C'est pas vrai.
Si, c'est vrai. Il envoyait des lettres et là, maintenant, tu DM une fille. Ça va trop vite, cette époque. Moi, je trouve ça choquant que maintenant tu peux DM plusieurs filles en... Je sais pas comment expliquer, mais genre tu peux... Une fille peut tomber amoureuse de toi juste en message et tout, ça me choque.
Vous, ça vous est jamais arrivé?
En message?
Ouais, de commencer une histoire...
Si, par message.
Par message.
Par message, oui, mais moi je pense que pour créer vraiment quelque chose, faut voir la personne en vrai. Et partager des moments avec, ou sinon je trouve qu'il y a... Voilà, c'est nul, voilà.
Personnellement, je trouve. Après, j'ai jamais vécu, j'ai pas de... J'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Mais tant qu'on n'a pas partagé des moments dans la réalité avec une personne, eh ben, moi, je sais pas comment on peut dire ouais, qu'on est amoureux de quelqu'un tant qu'on n'a pas passé des moments avec. Après, je dis ça, je sais pas, je connais pas.
Ben, en fait, aujourd'hui, c'est assez rare les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont jamais sortis avec une personne, qui n'ont jamais parlé avec, sur les réseaux avec une personne du sexe opposé. Donc, ben, c'est assez rare et quand ça arrive, ben, les gens ils sont choqués, ils se disent comment c'est pas possible qu'ils parlent pas avec personne et tout ça.
Moi je suis tout d'accord avec elle. Tout à fait d'accord
parle
avec
pas
elle.
Toi, toi, parle pas. Par exemple sur ta sœur.
Moi je trouve que ben, notre génération elle a changé parce que je vois des collégiens, même en primaire, qui commencent à parler déjà avec des filles. Alors que nous en primaire on n'avait pas. On n'avait pas ce délire. Nous, notre délire, c'était de jouer entre nous. Et je trouve que la génération de maintenant, c'est filles, garçons, sortir, pas sortir. Je trouve que ça s'est dégradé. Et je trouve ça moche.
Il n'y a plus de limite.
Voilà, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de hachma, il n'y a plus rien.
Moi, l'amour, je vois plus ça comme un projet de mariage. Parce qu'en fait, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes visions, les mêmes projets de vie. Et si, avec la personne avec qui tu parles, et avec qui tu voudrais te marier ou bien fonder une famille, fonder un foyer, vous n'avez pas les mêmes visions, ben, ça cache l'amour, quoi. Ça gâche tout. C'est pas être amoureux pour être amoureux, mais je pense que c'est être amoureux pour fonder une famille et pour être dans le droit chemin ensemble.
Ça, c'est plutôt religieusement, en fait. Parce que les gens, ils vont pas comprendre les personnes qui... Parce que...
Vas-y.
Ben, en fait, nous, les musulmans, c'est cadré, c'est carré. Nous, on parle pas pour sortir avec la personne et tout ça. Nous, si on parle, c'est pour du sérieux. Je sais pas comment... Enfin, les gens, il y en a, moi, je sais qu'ils comprennent pas. Ils ont pas cette notion... Après, c'est l'éducation. Donc, c'est l'éducation que nos parents nous donnent et comment ils nous éduquent. Après, je dis pas que c'est mal de sortir avec une personne sans qu'il y ait du sérieux. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve ça, que ça sert à rien s'il n'y a pas d'engagement à la fin.
Moi, j'ai pris le côté nationaliste de mon père. Du coup, moi, personnellement, je me vois pas marier avec une fille qui n'est pas Ishlaha d'Agadir. Du coup, si t'entends ça, oh, je t'attends, je suis à Perpignan. Je donne pas mon snap, parce qu'après...
Bref. Donne ton snap.
Bref, sache que... Voilà, Ishlaha, si t'écoutes ça, sache que t'as une place dans mon cœur.
Vous rigolez, mais lui parle sérieusement.
Mais on le sait qu'il parle
sérieusement. Mais je parle sérieusement.
L'amour que je ressens pour ma mère ne sera pas éphémère.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
SOS Love.
SOS Love.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que pendant l'été, j'ai passé une vacance, des petites vacances avec une personne. En fait, on voyageait avec des amis en commun et on a passé un petit moment ensemble. C'était sympa, je ne sais pas c'était quoi en fait parce que c'était rien de sérieux, mais c'était un petit moment sympa. Et cette personne-là n'arrête pas de me parler, souvent. Cette personne m'envoie des textos, des photos. Elle me demande si j'ai envie de traîner ensemble ou je sais pas quoi. Et moi, je sais pas, je voulais pas de sérieux dans le moment. Pour le moment, je voulais pas de sérieux. Mais en même temps, j'aime bien cette personne, mais c'est comme si... C'est pas la top, quoi. C'est pas la top. Et peut-être que je pourrais trouver une meilleure. Je sais pas, moi. Mais je vous dis mon problème et je sais pas quoi faire, franchement. Si je coupe mon contact avec la personne ou pas. Et Voilà.
Mais quelle immonde personne! Enfin, je veux dire, on n'est pas sur le grand marché, là, si on se dit anticapitaliste, en fait, on dit pas qu'on va trouver mieux, mais c'est vraiment, c'est dégueulasse, mais... Ah, quelle enflure!
Michel, je sens que ça sent le vécu, Michel, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, peut-être, on peut avoir un peu de prudence, émettre des hypothèses. Alors, moi, merci pour ta question, quand même, hein, c'est une question importante qui peut aiguiller plein de monde ce soir. Donc, moi, je fais l'hypothèse, en tout cas, que la situation pour toi, elle n'est pas très claire. Ce que tu as envie de faire avec cette personne, quel type de forme de communication, de relation, j'ai l'impression que tout ça, c'est pas très clair pour toi et que aussi, du coup, c'est pas très clair pour la personne que tu as rencontrée cet été. Donc, moi, déjà, je préconiserais un petit état des lieux, et pour toi et pour cette personne, de c'est quoi vos envies, vos limites, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble ou pas, et d'essayer vraiment d'éclaircir ça. Donc, toi, fais-le pour toi-même. Si tu sais pas, tu sais pas, mais tu lui dis. En fait, l'important, c'est que cette personne, elle ait les mêmes informations que toi. Puisqu'il y a une théorie, voilà, que Michel... voulait expliquer peut-être, mais dans sa colère, elle a perdu un petit peu les pédales, c'est que quand même, il y a quelque chose d'assez énervant, c'est la théorie de la congélation, voilà, qui est une théorie dramatique. Donc on peut être congelé ou congeler des gens. Donc la théorie de la congélation, c'est vraiment, on tombe sur une personne avec qui c'est pas mal, mais, voilà, un peu comme tu as dit, c'est pas mal, mais... Et du coup, cette personne, on va pas éclaircir la situation, on va pas la lâcher, on va pas dire ben, « en fait, c'est terminé, en fait, j'ai pas envie, en fait, je suis avec quelqu'un, en fait, c'est pas le moment. » Parce que quand même, il y a des choses qu'on aime bien chez cette personne, et donc, on va la congeler. C'est-à-dire que on va la mettre au frais, on va la garder au cas où. Au cas où on aurait envie, au cas où on serait triste, au cas où on aurait besoin de quelqu'un. Et donc à ce moment-là, on va la ressortir. Pour la garder, on reste dans le flou et on envoie comme ça des messages de temps en temps. On maintient le lien, on ne passe pas dans la friend zone. Enfin, voilà, donc nous, ça, on trouve que c'est problématique parce que c'est beaucoup garder le pouvoir sur une relation. Ça veut dire que c'est toi qui vas décider si elle continue, si elle s'arrête, si on devient ami, si on ne devient pas. Donc c'est très déséquilibré. Donc... Moi, je dis, il faut prendre ses responsabilités et trouver l'équilibre à l'intérieur parce qu'on peut blesser des gens. Donc, voilà. Si jamais c'est cette situation, eh ben, arrête la congélation. Hein. Sois honnête dans tes relations. Et si tu sais pas, en fait, eh ben, tant pis, tu laisseras peut-être partir quelqu'un avec qui ça aurait pu être chouette, mais qui mérite aussi que ça soit clair. Michel, ça va?
Immonde personnage.
D'accord. On a bloqué Michel. Michel est bloqué.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au statut creuse, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, statue creuse, mais là donc en veilleuse, va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
Petit répertoire des interactions.
Le coup du lapin.
Le coup du lapin.
Le coup du lapin. Rencontre au sein de laquelle les deux protagonistes sont d'accord pour faire du sexe ensemble et dont la motivation principale est l'ennui. Situation répertoriée, pas d'internet, pas de compte Netflix, tous les autres invités ne sont pas venus.
Le Despacito.
Le Despacito.
El Despacito.
Moment sensuel où tu danses en soirée et que tu as envie de sexualité avec la personne qui se déhanche avec toi sur la piste.
Le Why Not Friend.
Le Why Not Friend.
C'est quand, dans ta tête, tu passes en revue tes amis en imaginant comment serait la vie amoureuse, affective ou sexuelle avec eux ou elles. Mais jamais tu ne l'avoues et jamais tu ne le tentes. Peut-être décliné en Why Not Collègue. Un ventre, un cerveau, l'amour, dialogue. Le statut d'amoureux me rassure. J'ai plus rien à craindre. On est ensemble, point. J'ai plus forcément besoin de convaincre, de séduire. Mon anxiété est tout apaisée. La compétition est finie. J'ai gagné elle.
En fait, tu cherches une certaine sécurité affective.
Et une amoureuse. Ça t'en donne plein de la sécurité. C'est comme un socle, un énorme soutien. C'est des yeux toujours tournés vers toi. Des oreilles qui boivent tes paroles. Des pensées qui peuvent pas se libérer de toi même quand t'es pas là. C'est hyper rassurant, ça rend confiance. T'es bien, t'es méritant. Et la preuve, c'est qu'il y a quelqu'un qui est entièrement concentré sur toi.
T'es dépendant de elle pour avoir confiance en toi. Mais elle ne sera pas indéfiniment concentrée sur toi.
Si. Si on est en couple, si, quelque part. Quand t'es en couple, t'as plus de doute. C'est avec ta non-exclusivité, là, qu'on n'est jamais sûr. On sait jamais si l'autre nous aime vraiment. On reste tout le temps dans le doute. C'est hyper fatigant à la longue. En couple, on est sûr.
Mais c'est là que tu te trompes, ventre. Tu es dans l'illusion. Le couple ne te détruira pas de tes doutes. Tu sais bien que les sentiments, ceux de elle comme ceux des autres, c'est fluctuant, insaisissable, incontrôlable. Ça monte, ça retombe, ça tourne du nez. La fidélité sentimentale est une illusion, ça n'existe pas. Comment peut-on être assez prétentieux ou prétentieuse pour imaginer qu'un jour l'aimé ne sentira plus l'envie d'en fréquenter d'autres ? On ne peut pas seul combler une personne. Rappelle-toi, ventre, rappelle-toi. Ta mémoire semble bien courte. Rappelle-toi combien de fois tu as déjà vu tes propres sentiments évoluer. C'est pareil pour elle. Tu auras beau lui donner tous les statuts du monde, tu ne réussiras pas à influer sur ce qui se passe en elle. Tu ne pourras pas figer son amour.
Bras zéro, love. Il y a une petite que je connais qui voulait vous présenter une chronique sur comment faire tomber quelqu'un amoureux de vous. Apprendre ou à laisser.
Pour trouver l'amour, il faut d'abord observer la personne. Mais pas trop fixement, parce que sinon après elle va se rendre compte. Il faut le faire discrètement. Donc il faut regarder où elle va, ce qu'elle fait, quelle musique elle écoute, quel bus elle prend. Et ça influence là où ça influence en fait tout. Parce que si elle prend par exemple à Perpignan le bus B, eh ben, vous regardez tous les arrêts qui sont à B. Et un jour, eh ben, je sais pas, vous prenez le même bus que lui. Et après, vous regardez où il descend. Et ça vous influencera sur là où il habite. Et après, vous regardez là où il habite. Et vous dites, le matin, ça veut dire qu'il fait tout ça comme trajet pour rentrer chez lui. Donc vous dites, quelle musique il pourrait écouter sur tout ce trajet.
Je suis gang, or gang, boy ne joue pas bang, bang, bang. Je suis gang, or gang, boy ne joue pas bang, bang, bang.
Ensuite, vous allez vous regarder aussi ses collègues, parce que les collègues, eh ben, c'est toujours, ils sont toujours proches de la personne. C'est-à-dire que c'est la personne, mais comment dire, c'est le miroir d'une personne en fait. C'est leurs amis, c'est le miroir de la personne. Donc vous regardez comment elle est, comment ses amis sont et ce qu'ils écoutent comme musique et tout ça. Et comme ça après vous êtes sûr, vous allez voir sa personnalité. Quand vous connaissez sa personnalité, vous faites tout pour qu'il vous remarque, mais en restant discret. Donc par exemple, je sais pas moi, il est assis sur une terrasse, vous voyez qu'il vous voit, vous commencez à vous arranger, mais discrètement, parce qu'il faut pas qu'on vous voie. Et après, vous marchez à côté comme si de rien n'était et vous l'ignorez à fond. Parce que l'ignorance, quand j'ignore les gens, voilà, ils t'aiment après. Après, vous l'ignorez jusqu'à que il commence à vous regarder et tout. Et dès qu'il vous regarde, eh bien, vous l'ignorez. S'il vient vous parler, ben, vous parlez normal comme si c'était votre collègue. Après, ça va devenir votre collègue. Et après, il faut que vous fassiez tout. Par exemple, je sais pas moi... Je sais pas, les garçons, ils aiment bien les filles qui jouent aux jeux vidéo, qui aiment bien les trucs de garçons, enfin, pas les trucs de garçons, mais t'as capté. Ben, vous dites, par exemple, des petites musiques qu'ils aiment bien. Je sais pas, moi, ils écoutent Naps, et ben tu dis, ah ouais, moi j'aime trop Naps et tout. Ou bien t'écoutes Naps à côté de lui, comme ça il va te demander qu'est-ce que t'écoutes, et après toi tu lui montres que t'écoutes Naps. Et ça c'est la meilleure technique au monde. Après, je sais pas, vous êtes en train de... à côté en train de parler avec plein de collègues et vous sortez votre téléphone et je sais pas s'il aime bien Minecraft, si vous voyez il aime bien Minecraft, eh ben vous sortez votre téléphone avec Minecraft dessus. Si vous voyez il aime bien GTA, vous sortez des photos, enfin vous regardez vos photos et là comme par hasard il y a une photo de GTA qui passe, vous voyez. Après vous faites des lives, si vous pouvez vous faites des lives sur Instagram et vous l'ajoutez pas, mais des lives publics comme ça tout le monde les voit. Je sais pas si c'est possible parce que j'ai pas Insta, mais en tout cas si c'est possible vous faites ça et vous jouez dans le live, vous jouez à des jeux et tout. C'est pas grave si vous achetez une Play, comme ça vous fera plaisir. Et s'il aime pas la Play, et ben vous achetez pas. Si c'est un skater, vous achetez un skate et vous le taguez avec votre prénom dessus et vous faites comme si vous êtes grave fan des skates et tout à fond et vous regardez des vidéos sur YouTube pour savoir comment on fait du skate. Si kiffe la cuisine maghrébine et tout, ben vous apprenez à cuisiner maghrébin et après je sais pas un jour vous dites ouais je vais ramener mon repas et tout et vous mangez ça à côté de lui, après il va dire waouh ça a l'air trop bon et après il va vous kiffer et c'est plein de petits détails à côté qui vont faire toute la différence et après il va vous aimer à fond, vous allez lui plaire. Et surtout il faut soigner sa dégaine. Les garçons, ils aiment pas trop les filles trop maquillées. Ils aiment bien les filles naturelles. Tu restes naturelle, naturelle, naturelle. Et un jour, tu mets le paquet. Et après, il va tomber en love de toi.
Voilà. Mais on j'ai une question.
Vas-y.
Mais du coup, il tombe pas vraiment amoureux de toi. Il tombe amoureux de tout ce que t'as créé pour qu'il t'aime. Toi, ouais. Il t'aime pas vraiment
mais,
à toi.
Ouais, mais en fait, après vous enlevez un petit peu, petit à petit, vous enlevez les trucs, comme ça. Il va tomber amoureux de vous et sans s'en rendre compte parce que vous allez enlever les trucs que vous aimez pas, que vous avez rajouté. Et après, va tomber un petit peu.
Mais du coup, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre pour qu'il tombe amoureux de toi.
Et après, tu redeviens ce que tu veux. Mais tout doucement, il faut laisser le temps. Vous voyez ? En 2 ans, c'est bouclé, il sortira avec vous, il voudra des enfants avec vous. Alors qu'au début, il n'était pas amoureux, il s'en foutait complètement de vous. Voilà, on appelle ça. Les astuces.
Plaisir de vous offrir un outil pratique, gratuit et relativement simple pour le plus grand chantier intime et social de déconstruction de l'amour. Voici une lettre que vous pouvez photocopier, tendre aux personnes avec lesquelles vous désirez échanger plus d'affection.
Et maintenant,
une proposition complètement formelle parce que je suis empoté pour tuer l'amour codé.
Tous ensemble.
On s'aimant bien quand même.
Attendu. Que la manière dont on fait circuler l'affection, en particulier l'affection physique, me paraît vraiment trop contrainte par une série de codes nazes, chiants, moyenâgeux et judéo-chrétiens qui génèrent souvent les pires situations chiantes et ou douloureuses.
Que je suis justement empêtrée dans cet héritage merdique et que je cherche désespérément des moyens de m'en sortir, mais je vous préviens pour l'instant, c'est pas terrible.
Que la révolution affective mondiale commence par la révolution affective individuelle et inter-individuelle. Que je vous trouve séduisant, séduisante, tendre, rigolo, rigolote, classe, charmant, charmante, incroyable, bizarre, etc.
Et que du coup, j'ai envie de peut-être m'asseoir à côté de vous, près du poêle.
Ou peut-être de vous regarder dans les yeux.
Ou peut-être de vous faire des bisous.
Ou peut-être qu'on rit et qu'on joue à grand-mère glacée.
Ou peut-être qu'on dorme ensemble, ou peut-être qu'on fasse des choses qu'on n'oserait pas faire pour de mauvaises raisons.
Alors j'ai décidé d'en parler,
parce que trop souvent, j'avais envie d'un peu ou de beaucoup d'affection de la part d'un tel ou d'une telle, et je n'en parlais pas parce que...
Je ne la connaissais pas suffisamment, ou alors je n'osais pas.
C'était pas assez fort, ou ça répondait pas assez aux critères d'une vraie histoire d'amour, alors je pensais que c'était pas la peine.
Et elle avait déjà une histoire d'amour, alors je me disais que ça allait foutre la merde.
J'avais déjà une histoire d'amour, alors je me disais que ça allait foutre la merde.
Alors voilà, j'en parle.
Mais attention.
Cette lettre n'a rien à voir avec une déclaration d'amour. C'est donc une proposition d'échange affectif qui peuvent être vraiment très différentes en fonction des moments, des individus. Ça peut être juste des envies, des choses finalement très anodines.
Ou si ça tombe, vous êtes la star de mes fantasmes nocturnes enfiévrés.
On sait pas.
Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas être gêné. Ça serait le pire des échecs honteux de la démarche. À la fois, si on est gêné, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il ne faudrait pas être gêné d'être gêné, parce que là, on s'en sortira jamais.
Attention, argue, vigilance. La fiction, c'est chouette, mais l'amour rôde. Et l'amour, des fois, c'est un piège.
Chouravons le bout de fromage et laissons la tapette se reclaquer dans le...
Voilà, donc moi j'appelle parce que ça fait plusieurs années que je suis avec mon mec. Voilà, ça se passe bien et tout, et j'organise pas mal de choses. Moi je suis assez love. Et donc du coup, j'organise tout le temps plein de choses pour entretenir notre amour, si j'ai envie de dire comme ça, quoi. Et il s'avère que lui, bon, il fait pas grand-chose. De temps en temps, si, il fait des trucs quand même, hein. Voilà, c'est chouette quand il organise des trucs, mais c'est vraiment pas souvent par rapport à moi. Du coup, ça commence à me poser question, j'avoue. Et des fois, je lui demande, mais toi, est-ce que c'est parce que j'en fais trop? Est-ce que ça t'embête, en fait, d'organiser des trucs? Et lui, il dit non, que ça lui va, mais que tout lui va, mais que je suis choupie, que je suis trop, que j'assure, mais que lui, il fait ce qu'il peut, enfin... Et que ça lui va, mais qu'il n'est pas trop à l'aise non plus avec ce genre de choses. Voilà, du coup, il me laisse plutôt faire les choses. Mais du coup, bon, moi, ça m'a allé jusqu'à présent. Mais comme ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, là, j'avoue que je commence à me poser des questions. Ça commence un peu à m'énerver un peu, quand même, pour être honnête. Du coup, voilà, j'appelle pour avoir des conseils. Est-ce que c'est normal que ça m'énerve ou que je me pose des questions? Ou est-ce que justement, je ne suis pas un peu trop chiante, un peu trop exigeante, que je devrais bien les faire... Enfin, voilà, je le laisse faire un peu ce qu'il veut et moi, je fais ce que j'ai envie, en fait, en gros. Voilà, je suis complètement perdue, je me pose plein de questions. Mais j'avoue que je suis un peu énervée quand même. Merci.
Merci pour cette intervention, merci beaucoup.
Merci. Alors, c'est vrai que c'est une question assez classique et une situation assez classique. On parle beaucoup de charge mentale en ce moment des meufs. Et là, c'est encore c'est la charge mentale de l'amour. Du coup, j'ai bien l'impression que tu prends vaillamment en charge la séduction, l'entretien de cette relation amoureuse. Mais ce n'est pas normal que tu aies ça à faire toute seule et que la personne en face, ta relation, a l'air de trouver des bonnes excuses pour pas en faire. Alors, moi, je te proposerais peut-être d'essayer. Alors, soit la communication, bien sûr. Irma sera peut-être plus experte là-dessus. Mais moi, je te propose une grève peut-être de la séduction. Alors c'est vrai que ça comporte des risques de fin de relation, mais voilà, si il n'en fout pas une,
pourquoi pas?
Quel intérêt?
Quel intérêt?
Voilà. Donc une grève.
Oui, moi je dirais voilà, écoute vraiment, écoute-toi quoi. C'est toi qui es dans ce couple, c'est toi qui es dans cette histoire. Donc si tu penses ça, c'est que c'est ça. Comme Michel le dit, essaye la communication, voilà. Essaye une fois, parce que aussi on a envie de dire ce soir que dans cette charge mentale dont Michel parle, eh ben, il y a aussi tout le côté de faire de la pédagogie, hein. C'est une charge supplémentaire de devoir éduquer les hommes. Donc peut-être aussi, il faut pas non plus y aller trop, hein. Je veux dire, tu essayes, et si ça marche pas, ça marche pas. La grève, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ce qui est en train de t'arriver arrive quand même assez fréquemment, hein. La question de genre est assez centrale, la question hétérosexuelle aussi, c'est-à-dire que en fait, les hommes, cis hétéros, hein, se retrouvent souvent dans cette situation parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'ils sont mystérieux, parce qu'ils sont éloignés de leurs sentiments. On va dire, voilà, ils vont faire une chose tous les 4 matins, hein, on le voit très bien quand un mec comme ça fait à manger, hein, tout le monde, c'est le repas du siècle, tout le monde le remercie, alors que toi, peut-être, tu fais à manger tous les jours et personne ne le voit, eh ben c'est un peu pareil en amour. C'est-à-dire, il va sortir le grand jeu une fois tous les 4 matins et ça va être vu comme extraordinaire, merveilleux. Il s'est un petit peu dévoilé, il est un peu sorti de sa case du mystère, mais n'oublie pas que c'est des miettes. C'est un peu ça ta sensation, elle est réelle, c'est la théorie des miettes qui seraient vues comme de l'or pur, mais attention, non, ce n'est pas de l'or pur, ce sont des miettes. Et tu ne mérites pas des miettes, personne n'en mérite. Donc peut-être lui, oui, mais toi non. Et toi, tu donnes avec beaucoup de générosité. Donc voilà, il faut que tu récoltes bien plus de fruits que ça.
Petit répertoire des interactions.
Le coup de bouc.
Le coup de bouc.
Le coup de bouc. Personne avec qui, sans aucun doute, de la relation va être problématique à cause du contexte, de la personne elle-même ou de la situation. Tout le monde te l'a dit, mais tu y vas quand même.
Le « je peux pas, j'ai piscine ».
Le « je peux pas, j'ai piscine ».
Crush mutuel, mais dans lequel une des deux personnes ne peut pas. Cause principalement répertoriée, elle ne veut enchaîner les relations, elle est déjà prise, elle habite en Norvège, elle en a marre des histoires. Le « je suis refaite ».
Le « je suis refaite ».
Le « je suis refaite ». Tu ne t'y attendais pas. À moitié en pyjama, tu ne t'es même pas brossé les dents, mais ce soir, là, c'est avec cette personne que tu as rencontré comme ça il y a peu de temps ou avec qui tu traînes depuis longtemps que tu sortiras. Et en fait, c'est trop bien.
Un ventre, un cerveau, l'amour, dialogue.
Elle est partie.
Elle avait pas besoin de partir, nous étions en non-exclusivité, personne ne l'empêchait de partir.
Sauf que là, elle reviendra plus, elle veut plus de nous. Exclusivement ou pas, elle s'en fout, elle est partie.
Faut l'accepter, elle est libre.
Ah, j'ai mal.
Arrête ton cinéma.
Elle a dit que nous étions trop compliqués.
Tu l'aimais trop.
Elle a dit que tu étais trop loin de moi.
Elle voulait dire que tu étais trop loin de moi.
Ah,
arrête tes caprices, tu ne peux pas avoir mal.
J'ai trop mal.
Tu te laisses avoir mal. Tu peux choisir de ne pas avoir mal. Tu n'as pas mal.
J'ai trop mal.
Tu n'as pas mal.
J'ai trop mal. Écoute-moi, merde, écoute-moi. Écoute comme j'ai mal.
Arrête d'avoir mal.
Mais je peux pas. Dis-moi comment faire.
Calme-toi. Pense à autre chose, ou plutôt non. Comprends pourquoi tu as mal.
J'ai mal parce qu'elle est plus là.
Mais attends, comprends mieux, va plus loin. Pense à Freud, l'inconscient, l'enfance, Oedipe, l'abandon, tout ça.
Qu'elle est partie.
Enfin, mais toi, mais tu... Enfin, mais tiens-toi tranquille. Comment veux-tu que je me concentre si tu cries comme ça? Alors Freud, ou plutôt Reich, attends.
Écoute. Entends, j'ai mal, et là aussi, et là, et à droite, et à gauche, et en haut, et en bas, et en ligne, et en pointe, et en noir, et blanc, ça tord, ça coince, ça hurle, ça gratte, j'ai mal. Partout, de partout, j'ai archi mal, j'ai ultra mal.
Sapristi, mais tu as vraiment mal, ma parole. Mais calme-toi, n'oublie pas qu'une seule voyelle suffit. Dis donc, tu me fais peur, hein. Pourquoi t'as mal comme ça, c'est fou.
Parce qu'elle est partie.
Non, mais ça, je sais pas, j'ai compris, mais comment ça se fait que tu es aussi mal? On dirait que j'ai complètement échoué dans ma tâche de rééducation. J'étais sûre d'avoir bien travaillé sur le sentiment amoureux, la possessivité, la dépendance, etc. Je pensais que tu étais devenu moins dépendant et que la non-exclusivité, petit à petit, ça commençait à rentrer.
Tu penses comme un fou, mais tu n'écoutes jamais.
C'est faux. J'ai toujours demandé où et comment tu avais du plaisir et de la douleur. Par contre, là, tu me surprends. Tu as très très mal. Mais tu as vraiment très très mal. Je ne sais même pas comment te soigner. Mais j'ai beau te dire plein de choses, juste, ça change rien. Tu as toujours aussi mal. Mais enfin, ventre. Pourquoi tu m'échappes autant? Tu es ma créature, ventre. Ne l'oublie jamais. C'est moi qui t'ai formée. Quand nous étions petits, c'est moi qui t'enseignais tes émotions, malgré moi. C'est par moi que passaient les normes sociales, celles que maintenant te font souffrir. C'est moi qui te les apprenais. Souviens-toi. C'est moi qui t'ai appris cette idiotie romantique de la princesse charmante, malgré moi. C'est moi qui t'ai bercé de chansons gnangnan. I love you forever, I love you him and no one else. J'étais trop jeune pour m'en empêcher. Toute la société se modelait à travers moi. Tes émotions ne sont pas naturelles, elles sont culturelles. Mais comment se fait-il que la culture finisse par nous imprégner jusque dans les tripes, jusque dans le fond de nos douleurs les plus atroces? Comment fait-elle? Oh, c'est trop injuste. Pourquoi suis-je incapable de te modeler maintenant comme je l'ai fait dans notre enfance? J'aimerais te démodeler, te libérer de souffrances culturelles absurdes et inutiles.
Comment tu fais? Comment tu fais à dire que ma souffrance, elle est culturelle? Elle est trop là pour être culturelle.
C'est ça qui est dingue.
Ma souffrance n'est pas culturelle, tout le monde souffre.
Tout le monde souffre, mais pas pour les mêmes motifs. C'est la culture qui choisit ce qui te fera souffrir. Après, quand tu souffres, d'accord. Mais qu'est-ce qui te ferait souffrir?
Son absence. La fin de l'histoire. La fin.
Tu comprends ce que je veux dire? Toute fin. Tout changement a des bons et des mauvais côtés. Notre culture donne du poids aux uns et aux autres. Par exemple, une personne qui perd son travail, si sa culture lui a appris que le travail était le seul moyen pour sa vie d'avoir du sens, elle va souffrir à mort. Si elle s'est libérée de la culture du travail, par contre, elle pourra voir le chômage d'un très bon œil, tu vois?
Non.
Mais si... Il y en a qui souffrent quand un ou une proche leur annonce qu'elle est homosexuelle. Il y en a qui souffrent vraiment quand on leur annonce que leur équipe de foot préférée a perdu la finale. Il y en a qui croient tellement fort qu'à la sorcellerie qu'à partir du moment où on leur annonce qu'ils sont ensorcelés, elles crèvent en 3 jours. Toi, tu crois tellement fort à la princesse charmante, à l'horreur de se retrouver non possesseur et non possédé. Tu crois tellement dans le couple comme vecteur de solidité, de sécurité, de reconnaissance, quand on t'annonce que nous devenons célibataires, tu t'effondres. Alors qu'au bout du compte, notre vie ne va pas changer si fort. Tu t'en rendras compte dans quelques semaines. Tu te diras « Mais c'est fou, pourquoi j'ai tant souffert ?» Tu ne te reconnaîtras plus quand tu te souviendras de ce moment-ci. Tu ne comprendras plus l'intérêt de souffrir autant.
J'en sais rien.
Qu'est-ce qui compte dans la vie? Une équipe de foot? Un diplôme? Un emploi? Une amoureuse? Un amoureux? Tu sais bien que tout cela est relatif. Il y a des choses qui comptaient pour toi jadis et que maintenant ne te font plus rien.
Je comprends rien, tu parles pas ma langue. Tu parles pas ma langue.
Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais toujours revient. Je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de mes reins, douce la chaleur de tes mains. À chaque fois, à chaque fois, chaque fois qu'on parle d'amour, chaque fois qu'on aime d'amour, c'est avec jamais et toujours. On refait le même chemin en ne se souvenant de rien. Et l'on recommence soumise, Florence et Naples, Naples et Venise. On se le dit, on y croit, que c'est pour la première fois. À chaque fois, à chaque fois, chaque fois qu'on aime d'amour, à pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Et bien qu'on connaisse l'histoire, pouvoir s'émerveiller d'y croire, espérer faire pour pas une thune l'éclair d'amour au clair de lune, et rester là s'émerveilleux à se rire du fond des yeux, à pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Ah, redis-le-moi que je suis ta première fois, viens, et refais-moi le serment qu'avant moi il n'y avait pas d'avant. Pas d'ombre et pas de soleil, le jour, la nuit, c'était pareil. Tu veux pas au creux de terrain, douce la chaleur de mes mains. Ah, redis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Ah, redis-le-moi, je le crois et j'aime pour la première fois. Comme à chaque fois, comme
Bonjour, je suis un humain et bienvenue à ce podcast qu'on va appeler une confession d'amour. Je veux bien dédier ce podcast à ma mère qui, ça fait un moment que j'ai pas vu. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec moi, ça fait un peu plus d'un an. Et en fait, cette histoire, c'est l'explosion de Beyrouth qui a eu lieu le 4 août 2020 à 18h08. Je me souviens, ce jour-là, je me suis réveillé et j'avais pas grand-chose à faire. J'habitais chez mes parents à l'époque et je bossais pas. Parce qu'il y avait la pandémie et il y avait le confinement aussi. Mais le gouvernement avait décidé de déconfiner pour 2 jours. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était planifié? Je sais pas non plus. Mais bon. À midi, j'ai mangé avec ma mère et je me suis posé dans ma chambre après. J'étais supposé aller faire mon sport, je faisais du footing à côté du port. C'est un endroit proche de la mer, proche de l'eau. C'est là où je trouvais beaucoup de tranquillité. Et souvent, il n'y avait pas grand monde là-bas. Mais quand j'étais dans ma chambre, j'avais fumé un joint. Et après, j'avais eu la flemme. Donc j'ai décidé de faire une petite sieste. À 17h, je me suis levé et je me suis dit que... il faut trouver la force et il faut trouver l'énergie et qu'il faut pas rater le sport, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis habillé et je suis parti de chez moi. À la moitié du trajet, comme j'avais vraiment la flemme, je me suis dit bon, je vais pas y aller là-bas aujourd'hui. Je vais courir dans les quartiers de Beyrouth parce que il y avait des quartiers que j'aimais beaucoup et je trouvais ces quartiers tellement charmants. C'est des quartiers qui représentaient la culture, c'est des immeubles qui étaient anciens, mais vraiment beaux. Et donc, ces quartiers sont tellement proches du port, c'est des quartiers qui s'appellent Sodeco et Jemaisé, c'est des endroits à Beyrouth. J'avais fait mon sport là-bas pour une demi-heure ou 40 minutes et après j'ai décidé de rentrer chez moi. Et en rentrant chez moi, c'est là où ça a pété. J'avais des écouteurs, j'écoutais de la musique. J'avais pas capté ce qui s'est passé en fait. J'avais même pas su que c'était une explosion. Je pensais que c'était la guerre peut-être. Mais à ce moment-là, tout ce qui me prenait la tête, c'était pas l'explosion et c'était pas le danger. Je pensais à ma mère. Et je me suis dit... putain, mais elle va flipper. Elle doit flipper maintenant parce que elle doit penser que je suis allé, que je suis mort, quoi. C'est ça ce qui m'a brisé le cœur. L'idée qu'elle pense que je suis mort ou et même moi. Enfin, moi je savais même pas si elle était vivante ou pas parce que je savais même pas si l'explosion était proche de moi ou pas. Et je captais rien. Je me suis dit, putain, je vais rentrer chez moi et je vais trouver mes parents par terre. C'est à ce moment où j'ai vraiment pensé que j'ai perdu mes parents. Donc je suis arrivé dans mon quartier. C'est un quartier qui est très très beau, qui est plein d'arbres et plein des immeubles historique, culturel, et en fait c'était plus beau. C'était que du chaos. Il y avait des gens qui saignaient partout, des gens qui criaient. Une fois que j'étais dans le quartier, j'ai commencé à entendre la voix de ma mère qui criait Nala. Et Nala, c'est mon chien qui avait échappé de la maison après l'explosion parce qu'elle a eu peur. Et donc ma mère courait après elle. Heureusement que j'ai trouvé ma mère vivante. Elle était bloquée derrière la grille de l'immeuble parce que la grille ne marchait plus à cause de l'explosion. C'était dur, quoi, parce que c'est là où J'ai perdu l'envie de vivre. C'est là où j'ai perdu l'envie de continuer à se battre dans la vie. Évidemment, j'avais pensé que j'ai perdu ma mère, quoi. Et ma mère, c'est quelqu'un qui m'avait donné beaucoup d'amour dans la vie, qui m'avait donné beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a très bien pris soin de moi. À ma mère, je veux bien dire que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Et j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir un jour. Et conclusion de l'histoire, à vous, j'aimerais bien dire que n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'exprimer l'amour. D'exprimer vos sentiments à vos proches, de prendre soin d'eux, et n'ayez pas peur de respirer, quoi, parce qu'on sait jamais à quel moment ça va se terminer.
Voilà, notre émission touche à sa fin. C'était Brasero Love, que nous avons construit avec beaucoup de plaisir.
Et on fait des bisous à la bande qui n'est pas là, déjà. On leur envoie plein d'amour.
Et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles émissions. La nouvelle équipe, elle est là.
Et en attendant, n'oubliez pas d'aimer.
Bisous.
Des bisous, bonne nuit.
Bisous.
Bonne soirée.